Vivre FM, podcast.
De 10h à 11h, la santé mentale en question, Anne Voileau.
J'ai le plaisir de recevoir Charlotte, que j'ai rencontrée grâce au centre de formation de notre radio. Elle a de nombreuses qualités et de nombreux talents. Artiste, auteur, compositeur, elle est très bonne chanteuse, mais elle est aussi révoltée. Et elle nous parle avec sincérité de l'expérience qu'elle a faite d'une certaine psychiatrie qui laisse des cicatrices indélébiles. Et pour l'avoir vécue, elle nous parlera de ce qui parfois est et pourrait changer à travers une autre prise en charge des personnes en crise. Écoutez Charlotte, cela vous passionnera, car ce sont les personnes concernées comme Charlotte qui feront évoluer les choses. Alors surtout, restez sur Vivre FM. Charlotte, bonjour.
Bonjour Anne.
Merci beaucoup d'être venue parce que ça me fait toujours plaisir de recevoir des anciens stagiaires. Surtout, vous êtes actuellement, vous continuez votre stage à la radio même. Alors, comme vous avez trouvé ce stage Sino déjà, et puis un peu, vous nous expliquerez ce que vous faites ici au siège même de la radio.
Alors, j'ai un couple d'amis qui ont tous les deux fait le stage de Sino, donc ils me l'ont fortement conseillé. Donc je me suis dit, je vais essayer l'aventure.
Oui, s'ils ont réussi eux, pourquoi pas moi?
Voilà, je vais essayer l'aventure et j'ai trouvé ça absolument génial. Enfin, vraiment, je me suis amusée à faire ce stage, c'était passionnant. On a fait de la vidéo, on a fait du théâtre,
oui,
de la radio.
Oui, de la radio aussi, parce qu'il ne faut pas oublier Fred. Mais c'est vrai que le théâtre, moi j'ai trouvé que vous vous débrouillez très bien, parce que c'est simplement ces 2 mois, c'est pas beaucoup en fait.
C'est pas beaucoup pour monter une pièce.
Bah, oui.
C'était un petit peu chaotique, mais c'était très amusant. Et, voilà.
Et puis, vous avez fini, enfin, la vidéo, il y a un clip qu'on pourra bientôt voir sur Vivre FM, hein, sur le site, où vous jouez de la guitare.
Je joue de la guitare avec Luc, pour le dire.
Et vous êtes chanteuse.
Et je suis chanteuse. Chanteuse anonyme.
On est chanteur, on l'est pas. Hein. Mais vous essayez d'en faire votre métier ou pas du tout, vous chantez comme ça?
J'essaye pas d'en faire mon métier parce que ce serait trop compliqué.
Maintenant, avec Internet, ça aide quand même. Hein.
Oui. Mais je mise pas trop d'espoir là-dedans parce que déjà, c'est pas un milieu qui m'attire particulièrement. Et puis, faire des petites scènes, d'accord.
Voilà. Oui, mais en plus, vous écrivez vos chansons aussi.
J'écris mes chansons.
Auteur-compositeur.
Auteur-compositeur.
Ouais. Oui. C'est important. Et il y en a d'autres qui sont très bien arrivés sur Internet, hein, quand même.
C'est vrai.
Je ne citerai pas de nom pour pas faire de publicité, mais il y en a beaucoup qui ont réussi grâce à Internet. Donc, allez-y. Hein, je vous conseille.
Alors, Daniel m'a justement proposé de participer à la Villette rencontre vidéo autour de la santé mentale. Donc, je serai certainement présente avec Luc. Toujours.
Oui, c'est très bien ces journées, vous verrez, c'est vraiment très bien. Donc, il vous a suggéré de passer la vidéo que vous avez faite. Hein,
voilà, qui s'appelle « Je suis un automate ».
Voilà, que tout le groupe en fait a réalisé avec
vous.
Voilà,
tout le monde.
Et Daniel Simonet. Et puis alors après, vous verrez, je ne vous dévoile pas tout, mais vous montrerez sur scène et vous expliquerez un peu pourquoi et comment vous avez fait ça.
D'accord.
Et là, c'est le plus impressionnant, c'est ce qui donne le plus d'émotion encore que les films, c'est de voir les personnes elles-mêmes.
C'est vrai.
Vous verrez, mais c'est un peu impressionnant. Alors, vous avez, alors l'émission, vous savez comment elle est un peu construite, c'est dire un peu les difficultés qu'on a eues pour montrer que quand même, si vous êtes là au micro avec un beau sourire et tout, c'est quand même que ça va mieux. Et comment donner des petites recettes un peu, parce que chacun a des recettes pour se sortir un peu des difficultés. Et c'est vrai que ça peut servir aux personnes, aux autres.
D'accord. Alors les petites recettes. Alors moi personnellement, ma pathologie fait que je ne supporte pas de rien faire. Voilà.
C'est plutôt bien ça. Non. Moi qui suis des fois, je me trouve très fainéante et je trouve que c'est un défaut. Alors c'est une pathologie.
Enfin ça fait partie de ma pathologie. C'est-à-dire que quand je fais rien, même si je vois des amis ou j'ai eu des périodes où j'avais pas d'activité. Rien, même voir des amis, ça me suffisait pas. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je sois stimulée, que j'utilise ma pensée ou mes mains pour la guitare ou quelque chose de constructif.
Alors qu'est-ce qui se passe quand vous pouvez pas faire ça? Enfin, ça, c'est quand même assez facile de prendre sa guitare, mais admettons que vous n'ayez plus votre guitare et que vous pouvez pas faire quelque chose, il se passe quoi?
Je vais dessiner.
Ah donc vous faites toujours quelque chose, donc.
Oui, mais j'ai besoin d'être poussée, d'avoir un résultat comme à Sino, créer une émission radio, enfin pas créer une émission radio, mais participer à une émission radio. c'est déjà hyper comment dire gratifiant.
Pourquoi? Oui, ce que vous voulez dire, c'est que si vous êtes pas motivé, vous ne pouvez ne rien faire. À ce moment-là, ça va pas. En fait, c'est dans l'autre sens.
Oui, c'est ça. Enfin, c'est
dans le sens que ça vous arrive de ne rien faire. Mais à ce moment-là, ça va pas.
À ce moment-là, ça va pas.
Ouais, voilà. Donc,
alors quand je suis chez moi, j'attrape ma guitare et puis voilà.
Bah ça c'est plutôt bien.
Ouais. Ouais.
Mais vous avez des problèmes quand même un peu plus graves à un moment.
J'ai eu des problèmes très graves, oui. Oui, je viens de très très loin, très très loin. J'ai frôlé la mort. J'ai été hospitalisée. J'étais très très loin d'ici, quoi.
Mais vous êtes toute jeune.
Ouais.
Donc ça veut dire que, alors c'est à l'adolescence en fait que ça a un peu dérivé.
Non, à 18 ans.
Je croyais que vous aviez 20 ans, donc.
C'était okay. Plus l'adolescence, c'était 18 ans.
Oh, oui, c'est pas loin quand même, hein. Oui, on arrive
c'est
juste.
C'est pas loin, mais c'est tout juste l'âge adulte. Voilà. Qui a été pour moi difficile.
Et alors, moi, vous avez, c'est quelque chose qui me tient à cœur de parler, en fait, comment on est traité quand on va pas bien. Vous m'en avez parlé un peu. Mmh. Je pense que c'est important d'en parler et de dire que ça arrange pas quand on est maltraité en
ouais.
fait.
Oui, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur que j'ai écrit d'ailleurs. Enfin, j'ai écrit un petit pamphlet sur la psychiatrie. Moi, quand j'ai été hospitalisée, donc j'avais des troubles psychotiques, mais j'étais pas dangereuse et j'ai été donc au CMP avec mes parents.
Oui, en plus, donc vous avez été avec eux, ils vous ont pas forcé, donc déjà vous veniez comme
non,
ça, donc
voilà.
Bon. Donc c'était plutôt bon signe.
Et puis quand j'ai compris qu'ils allaient m'hospitaliser, là j'ai ouais. commencé à avoir les chocottes parce que j'avais déjà fait une hospitalisation avant. J'ai commencé à avoir les chocottes, j'ai essayé de m'enfuir et il y a un infirmier donc qui m'a barré le passage. Et c'est amusant parce qu'à ce moment-là j'ai eu une voix qui m'a dit c'est un CRS. Et donc le type m'a prise, m'a attrapé le bras, m'a mise par terre, m'a traînée dans une salle de soins. On m'a baissé mon pantalon, on m'a injecté un produit qui m'a complètement shootée. Et puis de là je me suis tenue tranquille, je suis arrivée à Sainte-Anne. Et ensuite la suite en fait, j'en ai que des petits souvenirs. Je sais que j'avais pas le contrôle de mon corps, j'avais pas le contrôle de mes pensées, j'avais les yeux qui partaient dans tous les sens, j'arrivais pas à manger. Et j'étais tellement sédatée par les médicaments, ils ont dû mettre une sacrée dose, hein, parce que je vous assure que pendant trois semaines, je ne me rappelle
ah ouais,
de
ça
rien.
A duré.
Je ne me rappelle de rien. Enfin, que des petits passages où j'avais du mal à bouger, etc. Donc voilà. Puis bon, Sainte-Anne, c'est pas le pire. Hein. Moi, j'ai entendu des histoires bien pires.
En fait, ça devrait pas exister quelque part.
Ça
c'est
devrait
pas normal.
Exister.
Alors, mais vos parents, ça a dû les choquer beaucoup.
Oui, surtout que la scène s'est passée devant eux.
Oui. Et alors ils ont pas eu le temps de réagir.
Ils étaient impuissants. Ils étaient complètement dépassés de toute façon. Donc ils ont laissé faire. Et...
Bah oui, ça va souvent très vite aussi.
Ça va très vite, ouais. Mais je me rappelle du regard de ma mère à ce moment-là.
Oui, alors qu'on pouvait très bien agir autant. Enfin, vu après coup, c'est le moment de le dire, c'était peut-être plus facile à ce moment-là de vous expliquer pourquoi ça serait peut-être bien d'avoir une hospitalisation. Enfin, est-ce qu'on pouvait vous expliquer à ce moment-là quelque chose ou pas?
Non, je voulais rien entendre. Je voulais rien entendre. Quand on est dans un délire psychotique, on croit évidemment à ces perceptions qui sont fausses. Et donc, j'étais dans le refus total de soins.
Mais alors vous, si vous étiez infirmier maintenant et que vous aviez une personne comme dans l'état dans lequel vous étiez, qu'est-ce que vous feriez?
Je lui expliquerais calmement de prendre ce traitement, de nous suivre, en expliquant que sinon on emploiera une manière forte, mais une manière forte qui ne soit pas douloureuse pour le corps. Évidemment, c'est douloureux pour l'esprit. Moi, quand j'ai été hospitalisée, j'ai perdu mes convictions. C'est-à-dire que la notion de dignité pour moi, qui était une valeur qui existait, hein, cette valeur-là pour moi, elle a disparu.
Et de respect,
De respect de la personne. Quand on prive quelqu'un de sa liberté, c'est quand même quelque chose qui est très très fort et qui moi m'a marqué à tel point que je fais encore des cauchemars d'enfermement abusif, des choses comme ça.
Oui, et ça arrange pas les choses de toute façon. Mais là, vous m'aviez parlé de la première hospitalisation, ça s'était mal passé aussi?
Oh, ça s'était mal passé, mais c'était à l'Institut Mutualiste Montsouris. Mmh. Donc c'était autre chose que Sainte-Anne, c'était 4 étoiles à côté de Sainte-Anne. Quand j'ai vu... En fait, la psychiatre m'a posé la question, est-ce que vous pensez à la mort? Bah oui, je pense à la mort. Enfin, à l'époque, je m'intéressais au bouddhisme. Je pense à la mort. Et puis à partir de là, bah on m'a enfermée. Et puis quand j'ai vu cette porte se refermer et puis l'infirmier fermer à clé, là j'ai compris que j'étais enfermée et j'ai commencé à pleurer. Et puis j'ai passé 15 jours là-bas. Comme j'avais 18 ans, j'avais le droit de quitter cet endroit. Donc voilà.
Vous l'avez pris.
J'ai quitté l'endroit.
Et qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous avez quitté l'endroit?
Ce qui s'est passé, c'est que j'allais de mal en pis. Donc.
Mais vous l'avez quitté un peu vite peut-être. Mais c'était normal de le quitter.
Oui, voilà, c'était normal parce qu'à l'époque les symptômes ils étaient pas graves non plus.
Alors, si on, en vous écoutant, ce qu'on comprend quand même, c'est que c'est important d'expliquer et de prendre le temps d'expliquer.
Oui.
Parce que quand on vous demande si vous pensez à la mort, c'est un peu logique quand on est jeune d'y penser. Enfin, ça,
oui.
Je veux dire,
oui.
Un philosophe a dit que l'adolescence c'était le choix entre vivre et mourir. Donc on y pense, c'est normal.
Ça me fait rire parce que je suis un petit peu morte moi à l'hôpital et je suis en train de renaître. Mais oui. Il y a ce rapport-là avec la mort, je suis passée juste à côté parce que j'ai eu, à ma sortie de Sainte-Anne, là-bas j'ai développé des pulsions suicidaires, l'enfermement, je sais pas. Enfin,
bon,
je sais pas.
Non, ça peut se concevoir.
Je sais pas. Et du coup, en sortant de là-bas, j'ai développé des idées de défenestration et j'ai failli passer par la fenêtre du 5e étage de chez mes parents. Et depuis, j'ai un rapport très particulier avec la mort. J'ai extrêmement peur, je suis angoissée, j'ai très très peur de la mort.
Et peut-être plus que de la mort, peut-être plus de ce que vous pourriez faire, peut-être, non?
Bah c'est une sorte de combat que je mène. Hein.
Voilà, on sent que c'est ça.
Voilà, moi je suis la vie et puis je combats la mort, voilà, jour après jour.
Très bien, et c'est vrai que c'est pas un hasard la mort, on en reparlera tout à l'heure, on va faire une pause musicale, on se retrouve tout de suite après.
Nous écoutons tout de suite « Je suis un automate », paroles et musique de Charlotte.
Je suis un automate, je suis un spectateur, on m'appelle Ponce Pilate, je ne vois jamais l'erreur, je descends pas dans la rue, je prends jamais parti. Et si je l'ai dans le cul, moi, je suis un abruti. Je tends vers la tendance, peur de l'indécence. Moi, je suis l'ignorance, moi, j'aime pas les nuisances. Si je peux foutre mon steak partout, je suis ouvert à tous les trous. Moi, je ne suis pas fou, moi, je me prends pour un loup. Je suis pour l'exploitation, je ne suis pas con, moi. J'aime pas les écolos, je trouve que c'est des rigolos. J'aime pas les étrangers non plus, ils font que nous voler. À part mon petit dealer et mon toshib bien malheur. À part l'arabe d'en bas où je vais chercher ma binouze. Les autres, je les aime pas, qu'ils restent dans leur bouse. Je me mets devant la télé, je pose mon cerveau de côté. Moi, quitte à exister, je préfère pas trop me fatiguer. Moi, on pense pour moi, moi. Moi, je suis un roi, je suis un automate. On m'appelle Ponce Pilate. Je suis un automate. On m'appelle Ponce Pilate. Moi, j'aime pas les PD, qu'ils se fassent enculer. Pourquoi ils pourraient se marier? Ils ne sont rien, ils ne font chier. Qu'on les envoie en Russie apprendre ce que c'est la vie. Mais je suis pas facho, je suis ouvert à tout débat. Juste à la condition que tu sois d'accord avec moi. Je suis un automate, on m'appelle Ponce Pilate. Moi on danse pour moi, moi. Moi je suis un roi, je suis un automate. On m'appelle Ponce Pilate. Pam 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 pam.
Nous venons d'entendre « Je suis un automate », paroles et musique de Charlotte.
La santé mentale en question, Anne Voileau.
Charlotte, on est en train de parler d'une chose vraiment importante, c'est la façon dont certains, pas tous, mais quand même, cette violence de la psychiatrie. Alors, on parle de la violence des personnes qui ont des troubles psychiques, mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup aussi de violence en psychiatrie. Et c'est ce que vous avez vécu. Alors, vous, pour reprendre un peu l'historique, à quel moment vous avez commencé à avoir des troubles?
J'ai commencé à avoir des troubles à 18 ans. Alors, je pense que le choc a été de revoir un de mes ex. Et ça a commencé en fait depuis mes 14 ans où j'ai commencé à me marginaliser, c'est-à-dire les cours je m'en fichais. Moi, ce qui m'importait, c'était plus une recherche intérieure et puis une harmonie avec la société. Mais cette harmonie-là, je ne la trouvais pas. Donc, au fur et à mesure du temps, je me suis marginalisée. Et puis, cette année de mes 18 ans, à la rentrée scolaire, a été étrange parce que j'ai commencé à me sentir, vraiment adulte, sûre de moi, sûre de mes positions, etc., très rebelle. Et du coup, il y a des filles de la classe qui me traitaient de folle parce que j'étais contre le nucléaire ou que j'avais des idées assez, on va dire
oui,
bizarres, mais
enfin,
sont
pas
bizarres.
Si bizarre que ça.
Voilà. Et puis, donc il y a eu ce harcèlement un peu mesquin, en plus de cette nouvelle rencontre avec mon ex, petite amie. Et j'ai commencé à développer des sensations de persécution, de choses comme ça.
Mais qui avait l'air pas complètement fausse quand même, parce qu'elle
voit
cela.
Qui n'était pas complètement fausse.
Voilà. Mais ça
j'ai amplifié.
Voilà, ça a amplifié.
J'ai amplifié le phénomène. Et puis, du coup, je parlais fort, j'étais affirmée, etc. Et puis, les professeurs se sont réunis, ont décidé que j'étais dangereuse pour moi et pour les autres. Alors je me suis retrouvée à l'infirmerie du lycée avec ma mère. Je comprenais pas pourquoi ma mère était là. Et puis on m'a emmenée, comme je disais tout à l'heure, à l'institut mutualiste.
Ça c'était la première, donc.
C'était la première hospitalisation, voilà. Et puis là on m'a donné des médicaments. Je sais même pas lesquels, hein, parce que on me disait pas, parce que on dit pas aux patients.
Il y a quand même un grand manque de dialogue, hein. C'est la moindre
chose. Ah oui,
dire,
oui.
Hein,
oui. Puis je me souviens l'infirmière. Moi j'étais complètement stone avec les médicaments. Et puis elle me dit venez dans mon bureau, et c'est limite si elle faisait pas comme ça, c'est rien à côté de Sainte-Anne, mais c'est quand même hyper choquant, quoi.
Comme
hyper
si vous
choquant.
Étiez vraiment
viens par là, la folle, ou je sais pas, enfin bon,
ouais, manque de respect quand même. On sent voilà. Dans tout ça, il y a un manque de respect,
Mais il y a cette marginalisation aussi que j'ai cherchée moi-même. Et finalement, on est toujours happé par la vague, quoi.
Enfin, on peut quand même être marginal sans être enfermé, à mon avis.
Voilà,
quand même.
J'étais peut-être un peu trop expressive, peut-être un peu trop.
Ou trop de sentiments profonds que vous exprimiez d'une autre façon, en fait.
Voilà.
Mais pourtant, quand vous dites au début que vous cherchez une harmonie, ça me paraît plutôt ça.
Oui. Moi, j'étais très bien avec moi-même. Hein. J'étais très bien. Mais avec les mesquineries des filles et des professeurs, enfin, j'écrivais des poèmes que je faisais tourner chez les profs, des choses comme ça. J'avais des propos qui étaient qui paraissaient assez peut-être étranges. J'essayais en fait de m'affirmer face au monde, mais finalement c'est le monde qui s'est affirmé
qui vous a rattrapé
face à moi. Ouais. Ouais. Et puis je peux vous dire que l'hôpital ça détruit une partie de nous-mêmes.
Oui, je sens que c'est toujours vrai. Ça fait combien de temps la dernière hospitalisation à Sainte-Anne ?
C'était il y a 6 ans.
Ah oui, quand même.
Il y a 6 ans. Ouais.
Ah ouais, moi je vous donnais 20 ans. Alors là, ça compte un petit peu.
C'est peut-être parce que j'ai encore un peu d'acné.
Non, c'est la jeunesse. Et c'est vrai que 6 ans et ça marque encore.
Ouais, ça marque.
Ça va pas. Alors imaginons que vous soyez infirmière. Vous choisissez le métier d'infirmière psychiatrique.
Oui.
Ça peut arriver. Parce que c'est un beau métier. Moi, je pense que quand on le fait bien, c'est un métier remarquable. Parce qu'on est au proche des gens et on peut vraiment aider. Alors, quelles sont les premières choses que vous institueriez? Vous direz, ça c'est comme ça, qu'est-ce que je veux?
Alors,
par rapport à un patient.
Par rapport à un patient, déjà, moi, je remettrais en cause tout le système hospitalier en psychiatrie, dans le sens où c'est Félix Guattari et Gilles Deleuze, je crois, qui avaient parlé, qui avaient créé une sorte de de clinique, mais sans être médicalisé, où tous les patients participaient à la vie en communauté. Mais si j'étais infirmière à l'heure actuelle à Sainte-Anne, par exemple, j'essaierais de proposer plus d'activités créatrices pour les patients.
Oui, ça c'est primordial. Je pense.
C'est primordial pour se reconstruire.
Et pas de l'occupationnel.
Voilà, c'est ça. Donc nous, on faisait du collage, bon, c'était pas passionnant, hein. Mais donner la possibilité aux patients de pouvoir s'exprimer librement, laisser parler sa folie, parce que la folie, en fait, elle dit quelque chose, elle a un message, elle est porteuse de message.
Alors écoutez déjà, voilà. Écoutez le message.
Voilà, c'est ça, écoutez le message. C'est hyper important, parce que si on nous coupe de notre folie, on nous coupe de nous-mêmes aussi. Donc à partir de là, il faut donner une valeur à la folie. Moi, si j'ai développé des idées suicidaires, je pense que c'est en partie pour ça. C'est que ma folie, on a dû la, comment dire, me l'amputer. Enfin,
en fait, quelque part, donner une réalité à la folie, ce qui est,
voilà,
c'est super important.
Oui, parce qu'elle est existante, oui. Et elle a un message hyper porteur par rapport aux maux de la société, aux choses comme ça. Moi, je pense que ceux qui sont dans les hôpitaux psychiatriques sont un peu les boucs émissaires de la société. La société, elle tourne pas rond et nous, on
oui,
en paye
et,
les frais, quoi.
Et vous êtes plus sensible à ce fait que
on
ça tourne
sensible.
Pas bien.
Ouais.
Ouais,
ouais.
Et vous en souffrez plus,
oui,
donc
oui,
vous
oui.
Montrez.
Moi, il y a beaucoup de choses qui me choquent et qui me mettent en colère, quoi.
Alors encore aujourd'hui, sûrement, il y en a des tas, par exemple.
dernièrement, je me suis mise en colère parce que les Chinois avaient, enfin, je crois que c'était à Pékin, ils avaient organisé une fête où ils torturaient des chiens. Et il fallait le torturer le plus longtemps possible avant qu'il meure ou quelque chose comme ça. Ça m'a mis dans une colère.
Il y a de quoi, hein, franchement.
Ouais. Ouais. Mais quand on voit de quoi l'humain est capable, on se dit aïe.
Alors c'est vrai qu'on dit toujours il est capable de tout, du pire et du meilleur, mais
du
c'est
meilleur
vrai dans
aussi,
les deux sens.
C'est vrai dans
mais
les deux sens.
C'est pour ça que je pense que vous écrivez, vous faites des tas de choses. Faudrait effectivement écrire sur tout ce que vous venez de dire parce que c'est très important de en fait quelque part de donner une réalité à cette folie, de l'écouter et de voir comment on peut la rendre constructive en fait quelque part.
Oui, c'est un travail très difficile quand on est dans un système de soins qui est coercitif comme ça. C'est difficile de donner un sens à sa folie.
Par contre, c'est intéressant parce que ça peut donner un sens. Il faut que tout le monde s'y mette, c'est-à-dire le patient comme les encadrants.
Les encadrants et puis
les patients
et puis la population aussi en général.
Mais alors, je crois que si ça commence là, après ça viendra
oui.
Petit à petit.
Oui,
mais il faut déjà que ça commence dans un endroit où ça existe vraiment et où c'est reconnu quand même. Alors c'est mal reconnu. Mais une fois qu'on peut s'en servir, c'est une bonne idée.
C'est sûr.
Il va falloir écrire là-dessus, vous qui
écrivez. Et j'ai jamais été aussi créative que dans mes moments de délire.
Oui, je pense qu'il y a toujours un côté positif quand même.
Oui.
Alors, vos délires, ça s'exprime comment ?
Alors, ça s'exprimait.
Ça s'exprimait, oui.
J'avais des hallucinations auditives, visuelles aussi. Je voyais des boules de lumière, hein, comme ça. Hop. Je me disais, hop.
Oui, mais ça, c'est pas... C'était pas spécialement horrible.
Non, c'était pas spécialement. Je croyais qu'il y avait des Chinois qui contrôlaient mon cerveau.
Ça, c'est plus embêtant.
Oui, ça, c'est horrible, horrible. En fait, je me suis réveillée un matin et puis j'ai psychoté comme ça, j'ai phasé pendant peut-être plus d'une heure. Et puis, j'arrivais pas à penser. C'est là que j'ai commencé à vraiment tomber malade. Je comprenais pas pourquoi mes pensées s'attardaient sur des choses aussi bizarres. Et en même temps, j'étais persuadée que les Chinois... je sais pas pourquoi les Chinois.
Oui, pourquoi les Chinois?
J'ai un truc avec les Chinois, je
oui,
sais
oui,
pas.
Oui, oui, c'est quelque chose.
contrôler mon cerveau, etc. Pour faire des machines de guerre. Enfin bon, une histoire pas possible. Qui est peut-être fondée d'ailleurs, mais enfin, on sait pas. Et puis c'est là que j'ai commencé à sombrer. Donc, sensation de persécution, hallucination.
Alors, est-ce qu'à ce moment-là, vous pensez s'il y avait eu un médecin ou un infirmier qui vous a écouté, qui a essayé quand même de discuter avec vous, c'était possible ou pas? Parce qu'il y a ça aussi.
J'ai vu une psy. Oui. J'ai vu une psy en libéral, donc qui m'a prescrit des médicaments.
Oui, il faut en prendre un petit peu, mais pas être abruti, effectivement.
Voilà,
ouais.
Mais ça m'a abruti quand même. En plus de prendre 20 kilos, ça m'a abruti. Et puis, j'ai trois fois, je me suis faite soigner en prenant des médicaments, donc ça fonctionnait. Et à chaque fois, j'ai laissé tomber le traitement parce que ça me légumifiait. Enfin, ça me voilà.
Bah, peut-être qu'il était un peu trop, simplement un peu trop. Fallait
oui,
peut-être réguler.
Peut-être. Mais en tout cas, à chaque fois, j'ai arrêté mon traitement. À chaque fois, j'ai rechuté.
Oui, ça c'est classique.
Voilà.
Quand même.
Et donc la dernière rechute, ils ont mis les moyens, ils m'ont mise à Sainte-Anne. Et...
Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux personnes? Bah, on va faire peut-être une pause musicale et puis après, aux personnes qui, elles, en sont à ce stade-là, qui nous écoutent, comment on peut se faire aider? Voilà, sans se faire interner.
Très bien.
À tout de suite. Nous écoutons tout de suite Il n'a qu'à dire, paroles et musique de Charlotte.
Il n'a qu'à dire, lève-toi pour apporter un peu d'amour ici-bas, il n'a qu'à dire. Marche tout droit pour apporter un peu d'espoir ici-bas, il n'a qu'à dire. Relève-toi pour apporter un peu d'amour ici-bas, il n'a qu'à dire. Marche tout droit pour apporter un peu d'espoir ici-bas. Parfois c'est vrai, je regarde le passé avec les yeux d'une personne âgée. Parfois je me dis que la société a volé mes rêves d'enfant désabusé. Je ne sais plus grand-chose aujourd'hui. J'aurais pu vous raconter la vie, mes convictions volées dans la nuit. Quoi que je fasse, je reste banni. Depuis le jour où ils m'ont emprisonné, j'ai toujours gardé enchaîné ce boulet. J'ai compris de ce jour que la dignité n'était qu'un mot, une idée bafouée. J'ai vu le troupeau se diriger vers la falaise, j'ai résisté, ça a mis les gens mal à l'aise. Ils m'ont emporté dans leur longue chute pendant que l'arbitre jouait, jouait de sa flûte. J'aurais voulu lui mettre mon poing dans sa gueule, mais c'était un fantôme qui riait de me voir seul. Mais il n'a qu'à dire, relève-toi pour apporter un peu d'amour ici-bas, il n'a qu'à dire. Marche tout droit pour apporter un peu d'espoir ici-bas, il n'a qu'à dire. Relève-toi pour apporter un peu d'amour ici-bas, il n'a qu'à dire. Marche tout droit pour apporter un peu d'espoir ici-bas. Je ne sais plus grand-chose aujourd'hui. J'aurais pu vous raconter la vie, mes convictions volées dans la nuit. Quoi que je fasse, je reste banni. Le château s'est effondré, maintenant je n'ai plus que mes yeux pour pleurer. J'ai sur mon visage des cicatrices que je cache avec des masques d'actrice. Je ne sais plus grand chose aujourd'hui. Les mots ne valent plus grand chose aujourd'hui. J'aurais pu vous raconter mes ennuis, mais maintenant ce que je fais, je reconstruis. Car il n'a qu'à dire, relève-toi pour apporter un peu d'amour ici-bas, il n'a qu'à dire. Marche tout droit pour apporter un peu d'espoir ici-bas, il n'a qu'à dire. Relève-toi pour apporter un peu d'amour ici-bas, il n'a qu'à dire. Marche tout droit pour apporter un peu d'espoir ici-bas.
Nous venons d'écouter Il n'a qu'à dire, paroles et musique de Charlotte.
La santé mentale en question, Anne Voileau.
Charlotte, déjà la dernière partie, c'est très passionnant parce que il y a plein de choses que vous dites qui sont très vraies et sur lesquelles faudrait s'appuyer beaucoup. Alors, moi, je pense que si quelqu'un nous écoute, actuellement, il est en crise, il a des problèmes, il est un peu parano, enfin, il ou elle a des problèmes. Qu'est-ce que vous conseilleriez maintenant que vous êtes sortie de ça?
Alors, il faut savoir se rendre compte qu'on a des symptômes de maladie, donc des symptômes morbides. Ensuite, il faut en parler. Il faut en parler à quelqu'un en qui on a confiance.
Voilà, mais ça, c'est difficile, hein.
C'est pas facile, surtout quand on est convaincu qu'on est, par exemple, le Messie. Parler de ça, ça va être un petit peu difficile. On se dit, on va me prendre pour un fou, ou quelque chose comme ça. La chose, c'est surtout dévoiler ce monde intérieur qui s'est créé, cette histoire qui se crée en nous, et puis là, de se faire guider, de ne pas avoir peur de la psychiatrie, parce que même si les méthodes en psychiatrie sont assez difficiles,
on peut choisir aussi quand même. Il y a des psys qui ont l'esprit très ouvert.
Et le plus on prendra conscience du besoin de se faire aider, et moins on aura cette notion de violence de la psychiatrie. Donc la chose, c'est d'accepter de pouvoir parler en fait de ces problèmes-là.
Oui, d'en parler. Oui, même si on pense que tout est vrai, c'est important aussi d'autant plus d'en parler.
Voilà.
À quelqu'un, trouver quelqu'un de confiance quand même, c'est pas toujours facile,
oui,
ça.
Oui, cette personne va guider, on va dire guider l'autre pour pouvoir aller mieux, tout simplement.
Oui, elle peut dire, bon, bah, il y a sûrement des choses vraies dans la folie, hein. Moi, je suis sûre que tout n'est pas faux, loin de là. Mais là, peut-être que c'est un peu trop, peut-être qu'il y a une souffrance, peut-être qu'il faut diriger la personne. Alors, les médicaments, moi, je sais que ça va quand même sauver la vie, mais il y a médicaments et médicaments. Et puis, il y a aussi les arrêts, comme, alors, quand même. Quand on en donne trop, on a tendance à... arrêter d'un coup, c'est pas très bon ça.
Ouais, surtout ne pas arrêter un traitement en cours sans l'avis du médecin. Si on a envie d'arrêter le traitement, déjà voir avec le médecin, commencer à baisser un peu les doses.
Voir ce que ça donne. Ouais.
Voilà, et surtout pas faire comme moi, j'ai fait 3 fois de suite, c'est-à-dire arrêter le traitement comme ça, et puis j'ai rechuté, bah forcément. Donc faut être sérieux. Et puis si le médicament ne nous va pas, qu'on a pris 20 kilos, qu'on n'a plus envie de rien faire, et que c'est lié au médicament, voir avec le psy pour changer.
Moi, je trouve que c'est normal de demander à ne pas prendre 20 kilos et ne pas être complètement abruti.
C'est normal. Et surtout, on n'informe pas les patients, on leur donne un traitement et on les informe pas. On leur dit pas, ça va te faire grossir, ça va te fatiguer, ceci, cela.
Alors, quelquefois, c'est vrai aussi que chaque médicament est différent à chaque personne. Moi, je connais les personnes qui en ont pris qui n'ont pas grossi, d'autres qui ont beaucoup grossi. Donc, c'est aussi les informer que ça peut. Et d'en parler.
Voilà. Par exemple, voir un diététicien, éventuellement, ou quelque chose comme ça. Mais faut pas avoir peur de la psychiatrie quand le moins on a peur de la psychiatrie et le mieux on ira en fait.
Et mieux ça se passera.
Voilà, il faut parler, faut avoir une relation de confiance avec son psy, ça c'est important et c'est rare de trouver des bons psys. Mais il faut accepter le soin et puis avoir confiance.
Voilà. Mais je pense qu'il faut aussi, quand on n'est pas traité avec respect, faut aussi le dire et s'en défendre.
Ouais, ouais.
Je pense que c'est important quand même.
Bah c'est un peu mon message en fait. Hein.
Oui. Non mais il faut le dire quand même. Oui. Ouais. Parce que toute personne a le droit au respect et à être traitée avec respect.
Bien sûr.
Puis alors des explications.
Oui. Par exemple des explications à l'hôpital. Moi j'ai demandé à savoir quel médicament ils me donnaient. Mmh. Ils m'ont sorti un énorme bouquin. Ils m'ont dit tiens. T'as qu'à regarder là-dedans.
C'est ridicule.
Les effets secondaires, etc. Alors, on te donne ça, t'as qu'à lire. Puis, je voyais des effets secondaires, mais horribles. Enfin.
Ben, n'importe quel médicament, hein. On prend la notice, même l'aspirine, on se dit, je vais mourir tout de suite. Non, mais un dialogue, alors, oui, il n'y en a pas assez de dialogue. Alors, il n'y a peut-être pas assez de médecins, pas assez d'infirmiers, je ne sais pas, mais il y a un problème de dialogue.
Alors, ouais, puis il y a un gros problème de fonds publics sur la psychiatrie, c'est-à-dire qu'on donne énormément, par exemple, pour les recherches contre le cancer. Tandis que les maladies mentales, elles sont vraiment mises de côté. Enfin, c'est...
Et puis l'un n'empêcherait pas l'autre, en fin de compte.
Voilà. Et surtout que la maladie mentale, de plus en plus de gens partent en dépression.
Actuellement, on dit qu'il y a 1 personne sur 4 qui risque d'être atteinte par une maladie mentale, ce qui est quand même beaucoup.
C'est énorme, oui. C'est énorme.
Et vous, alors, je pense que c'est un peu vrai quand on est jeune, quand même, une première fois qu'on arrête ces médicaments, parce qu'on se sent souvent mieux avec, puis on se dit, je vais bien.
Ouais.
Alors, une fois, je le conçois, mais après, c'est 2 ou 3 fois qu'il va plus. C'est pour
moi, il m'a fallu 3 fois, donc là, jamais 203, voilà, et hop là.
Mais pourquoi on recommence? Alors, on se dit, ça va pas le faire pareil ou que...
Pourquoi on recommence le traitement?
Non, pourquoi on recommence à arrêter alors qu'on sait que ça a été dramatique la première fois?
Parce que j'étais persuadée que je ne retomberais pas malade.
Ah oui, voilà.
Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis, la 3e fois, ça a été la bonne. Je me suis dit, bon, quand on m'a dit « t'auras un traitement à vie », j'en ai pleuré, hein, évidemment, parce que, bon, c'est pas facile. Mais je prends mon traitement. j'ai jamais raté une prise de traitement depuis 6 ans.
Et puis, en fin de compte, vous avez pas non plus une dose.
J'ai une dose relativement forte, mais.
Mais ça vous empêche pas de vivre, la preuve.
Non, tout va très bien.
ça a l'air
des angoisses de temps en temps.
Ça donne envie de prendre des médicaments en vous voyant.
Une petite pilule du bonheur.
À vous voir.
Non, je vous déconseille.
Et qu'est-ce que vous faites? Alors là, vous continuez votre formation là, au siège même. Alors comment ça se passe au siège de la radio?
Alors, ça se passe bien, mais c'est plus le monde du travail, le monde du travail qu'on imagine avec un ordinateur et puis travailler.
Ah bah là, c'est du travail au monde ordinaire là.
C'est de la bureautique.
Ouais, l'accueil aussi.
L'accueil aussi, ouais.
Alors ça se passe comment pour vous?
Alors la dernière fois, j'ai reçu un appel tout l'après-midi, donc
c'est un peu long.
Bon, j'avais mon utilité quand même parce que j'ouvrais la porte à ceux qui voulaient rentrer, donc.
C'est ce qu'on appelle l'accueil. Bonjour, voilà. Recevoir les gens, absolument, les inviter.
Ouvrir la porte à l'interphone et puis voilà.
Et en recherche, alors informatique.
Et en recherche, là dernièrement, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis en ligne des résumés d'émissions, de choses comme ça.
Mais ça, vous aviez jamais fait ça?
Non, j'avais jamais fait, non.
C'est pas trop difficile comme ça quand on arrive, parce que là la rédaction ça bouge, hein.
J'ai mis plus de temps à m'adapter ici. D'ailleurs, je suis pas encore très bien adaptée que à Ruissino avec Fred Pierre et donc la radio vraiment comme.
Oui, parce que le centre de formation, c'est entre vous, c'est une émission que vous faites vous, mais c'est vrai que là, vous êtes pris dans un contexte de travail, en fait.
Voilà, c'est ça.
Alors, qu'est-ce que vous aimeriez faire dans l'avenir, là?
Alors, j'envisage peut-être faire un petit stage dans un zoo, parce que je suis tombée sur une émission de télé une fois qui montrait ça. J'aime bien les animaux. Et puis, voir peut-être pour une formation de paysagiste, voilà.
Ça, c'est très intéressant.
Ouais, travailler dehors, enfin, travail dans un bureau, c'est pas tellement mon truc. C'est pas tellement mon truc.
Et alors, mais il faut continuer sur la musique.
Ah oui, non, mais je continue.
Et mettre plein de choses sur Internet. Ouais, là, faut faire. Vous avez un blog, vous avez un site?
Non. J'ai un très vieux site sur, c'était Skyblog, je crois, je sais plus que. Mais c'était quand j'avais 19 ans, donc j'ai progressé depuis et je veux plus entendre parler de ce site.
Ouais, justement, faut le moderniser.
Ouais, mais d'abord il faut enregistrer. Voilà.
Vous avez un studio à votre service, quand même. Là.
Mais je vais en profiter.
Franchement, oui, il faut, parce que c'est pas tous les jours qu'on a un studio.
C'est vrai. Tu as raison, Anne, je vais en profiter.
Ouais, Jason est notre technicien bien-aimé, là. Il sera là pour vous aider.
Ouais. En plus, il est mignon.
Oui, ça, c'est pour les auditrices qui veulent venir nous voir, qui peuvent passer nous voir. Vous leur ouvrirez la porte et puis Jason les recevra.
Exactement.
C'est beau. À partir de 14h, voilà. Rendez-vous est pris. Il va y avoir beaucoup de monde, hein, mais on n'en voit pas la photo.
Des mails.
On n'en voit pas la photo.
Donc, le
dernier mot, ça va être déjà quasiment fini. Qu'est-ce que vous conseilleriez là, maintenant, aujourd'hui, à quelqu'un qui va pas bien et qui se dit « je vais jamais m'en sortir ».
Faut savoir qu'il y a toujours un espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et puis, faut savoir aussi que les médicaments peuvent aider. Moi aussi, ça m'a sauvé la vie. Hein. Donc, faut jamais perdre espoir. Et puis, faut se faire confiance. Faut aussi savoir connaître ses difficultés et puis savoir prendre les armes nécessaires pour les combattre. Par exemple, aller à un hôpital de jour, aller dans un GEM, s'activer. Enfin,
mais pas rester enfermé.
Voilà. Surtout pas rester enfermé dans un. Voilà.
Alors, en tant que parent, parce que vos parents, c'est difficile pour les parents, ils souffrent pour leurs enfants, en fait.
Ouais,
hein.
Ouais.
Alors, en tant que parent, faut faire quoi? Parce que souvent, les enfants s'enferment. Alors, on sait pas si on les dérange en frappant trop souvent la porte, on sait pas. Qu'est-ce qui peut aider?
C'est pour ça que je suis pas maman encore.
Oui, mais alors vous mettez, ça peut venir, hein. Donc vous êtes à la place. Qu'est-ce qu'il faut faire, en fait? Faut quand même ennuyer, faut pousser la porte, faut.
Je pense qu'il faut un peu d'autorité, hein. Pousser, vraiment pousser, bien sûr dans les limites du raisonnable, hein, c'est-à-dire pousser l'enfant à sortir déjà, voir des amis, à penser aussi à reprendre les études ou un travail, voilà, et puis surtout le mettre en valeur les qualités de l'enfant, en disant mais non, tu t'es capable de faire ça, regarde, t'avais eu 10 sur 10 là, ou je sais pas.
Ou tu sais faire ça, voilà. Ou t'es doué en dessin, t'es
voilà.
Doué hein.
donner voilà. Un petit peu de confiance en lui, quoi.
Ah oui, mais quelquefois c'est pas facile, parce que les amis, quand il y a des troubles comme ça, s'en vont quand même, non? Un peu.
Oui, j'ai connu ça.
Oui. Mais alors, comment les parents, ils peuvent pas vraiment les rattraper?
Non. Il faut se refaire soi-même un réseau d'amis. Moi, j'ai eu la chance de passer par la clinique soins études du Pré, qui est à
Sceaux. Très bien, ça, oui.
C'est super.
Alors là, c'est super bien.
Voilà. Je parlais du 4 étoiles de la psychiatrie, mais là, c'est 5 étoiles.
La clinique du Pré, on a envoyé beaucoup de personnes et c'est génial.
Oui. Voilà. Donc là-bas, je me suis refait un réseau d'amis et puis, voilà, c'est une clinique soins études que je conseille aux jeunes qui souffrent.
Ah oui. Et vraiment, c'est y a vraiment du soin, il y a vraiment de l'accompagnement, puis il y a vraiment des études.
Et c'est très très humain. Les professeurs sont très humains, le personnel soignant aussi, et surtout, moi j'avais une chambre avec une vue sur le parc de Sceaux, donc voilà, que demander de plus.
Oui, c'est génial. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est important d'en parler parce que c'est une clinique exceptionnelle. Il y en a plus comme celle-là. Oui. Et vous avez donc fini vos études à la clinique du Pré ?
Non. Non, j'ai passé un DAEU, l'équivalent du bac, en 2013, je crois. Voilà.
Mais pas chez eux.
Pas à la clinique du Pré, voilà. Non.
Mais la clinique du Pré a
pas... Parce qu'ils proposaient le bac, et le bac, il y a trop de matière, ça m'intéressait pas.
Mais en fait, ça vous a remis quand même le pied à l'étrier pour les études.
Oui, j'ai pris des cours, comment ça s'appelait, remise en professionnel, quelque chose comme ça. Je prenais des cours de culture générale, de Excel, Word, etc. Enfin, des petites clés pour l'avenir professionnel.
Très bien, merci beaucoup Charlotte. Faudra venir nous raconter quand vous serez une vedette. J'espère que vous ne nous oublierez pas.
Non.
Merci beaucoup, à bientôt.